Nous sommes mercredi 27 février 2019 et vous écoutez le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
La pète, pas beaucoup. Hein.
La version flûte à bec. Maintenant, la prochaine fois, c'est le générique de Star Fox que tu fais à la flûte à bec.
Non, déconne, c'est un vrai ocarina, siglé.
Voilà, bah c'est ça. Donc le générique de Star Fox à l'ocarina. Et c'est un défi qui est lancé.
Bordel, j'ai deux semaines.
Les jeunes ne sont pas encore là.
Font, on sait pas.
Nous ne savons pas. Nous savons que Monsieur Galaxies arrivera un petit peu tard, mais Monsieur Drosgar est aux abonnés absents. Mais c'est-à-dire que s'il a trouvé quelqu'un qui est à peu près symétrique, il y a moyen qu'ils soient en train d'essayer de se le faire. Voilà, c'est ça le défi un petit peu. Bref, pour l'émission de ce soir, nous allons parler du Nintendo Direct et un petit peu du Pokémon Direct qui a eu lieu cet après-midi. Le Nintendo Direct qui a eu lieu il y a deux semaines. Nous allons parler de Tetris Battle Royale, alias Tetris 99.
Ça tue.
Ça tue sa mère. Mais nous allons commencer tout de suite par une nouvelle inquiétante. Bowser est le nouveau président de Nintendo of America.
Ça trouve le cul.
Si, il y a 2-3 ans, on m'avait dit que je dirais un jour cette phrase, je pense que j'aurais bien rigolé.
Surtout que le monsieur, quand il est devenu président, a envoyé une photo sur Twitter pour dire « Bonjour, c'est moi ». Et les gens qui ont été un petit peu attentifs sur Twitter ont marqué que derrière lui, sur une commode, tu avais Mario Luigi attaché avec une manette de GameCube.
C'est ça. En mode torture. Non, le mec a l'air d'avoir quand même sacrément le sens de l'humour. Je voudrais qu'on en profite pour revenir un petit peu sur la carrière de Reggie, parce que finalement, c'est un grand monsieur qui prend sa retraite.
De Reginal.
Reginal de fils aimé.
Reginator.
Reginator. On va rappeler quand même quelques-unes de ses apparitions mythiques. Hein. Reggie, c'est quand même l'homme qui prend des noms et qui botte des culs.
Je rappelle première apparition internationale.
Voilà. Ouais. Le Reginator, puisque... Alors, qui au départ était juste un mème sur Internet, c'est-à-dire des gens qui s'étaient amusés à lui coller des yeux rouges et machin, et à dire c'est le Reginator, il détruit tout sur son passage, et tout ça. Et en fait, le mec s'est vraiment parodié en Reginator dans un Nintendo Direct, en faisant avec... C'est la fameuse vue Terminator, les yeux rouges derrière les lunettes noires. Enfin, ouais, le mec a vraiment pris le truc au pied de la lettre en se disant bah, tiens, c'était un mème, on va en faire un vrai truc. Évidemment, le duel contre Satoru Iwata. Pendant, pareil, toujours un Nintendo Direct. Alors, le Nintendo Direct, ça a été l'usine à mème pendant 3-4 ans où Satoru Iwata était là, il faisait à peu près n'importe quoi.
Des bananes.
Et Reggie, pareil, avec des bananes, avec des.
Généralement, ils s'embarquaient Miyamoto avec eux.
C'est ça. Il y a eu les Muppets, quand ils étaient tous en marionnette.
C'était le seul bon truc de cette E3 Direct, d'ailleurs. Hein.
Tout à fait. Le reste,
c'était la NES
Star
Fox Zero,
je rappelle. C'était celui-là, ouais, ok.
C'était un peu compliqué. Et il y a eu, fabuleusement, Reggie, My Body is Ready.
T'as un Wii Fit, ouais.
Ah, qui était juste mythiquissime.
Ah, je me souvenais plus du contexte.
Alors, je sais plus si c'était Wii Fit Plus ou si c'était le Wii Sports Resort. Je crois que c'était Wii Sports Resort.
Ah, je sais plus, oui.
Il me semble.
Bien vu.
My Body is Ready.
Ouais.
Et bon, ça a été un grand moment. Donc, Reggie à l'E3, c'était toujours un très, 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 très grand moment. Parce que le bonhomme en impose, il a quand même une sacrée carrure.
Ah, il a un charisme de dingue.
Et puis même, il est gigantesque. Je sais pas si vous connaissez un vidéaste amateur, enfin amateur professionnel en fait, qui s'appelle Pro Jared. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non.
C'est un ancien du Dojo US, ancien de Screw Attack, ancien de Game Trailer, donc c'est un mec qui connaît un peu comment ça marche. Et si je peux vous recommander un truc qu'il a fait avec Reggie Fils-Aimé qui vaut le coup d'être, à mon avis, le coup d'être vu, c'est son interview, l'interview Switch. Donc il a pris Reggie Fils-Aimé, il a dit bah voilà, c'est simple, quand je suis à gauche de l'écran, c'est moi qui pose les questions, et toutes les 30 secondes on switch, et c'est toi qui poses les questions.
Ah c'est génial.
Alors l'idée est assez géniale, mais Reggie se prend un petit peu au jeu, et alors pour Jared, pour l'avoir déjà vu, c'est un mec qui est grand, hein. il fait 1m80, 1m85, c'est un grand, grand bonhomme, mais c'est un gringalet quoi, il est tout maigre. Et il fait genre une tête de moins que Reggie quoi. Donc je peux te garantir que quand Reggie pose des questions genre... C'est quoi le truc de Nintendo que t'as le plus détesté? L'autre mec, vraiment, non. Tu sens qu'il est pas à l'aise, quoi. Mais voilà, les grands moments Reggie, ça en fait partie aussi, ce petit truc-là. Je sais pas s'il y a d'autres moments un petit peu spéciaux avec Reggie Fils-Aimé dont vous aimeriez éventuellement parler, parce que c'est vrai que...
Moi, le truc que je retiens récemment, c'est son discours après le décès d'Iwata. Je crois que c'était au Game Awards. Et tu sentais le... Donc le gars est en position de CEO Nintendo America, mais tu sentais qu'il parlait d'un ami, quoi. C'était assez vrai, assez touchant, quoi.
Oui, mais en même temps, je pense que ça... Enfin, c'est pareil, les Nintendo Direct, mine de rien, ça veut dire que Reggie ou Satoru... Enfin, ils étaient obligés d'être à peu près au même endroit pour faire leurs conneries. C'est pareil, enfin, il y a eu des moments mythiques. Moi, c'est surtout Reggie sur la scène de l'E3, quoi, qui présente la DS, qui présente la Wii U, qui présente tout un tas de nouveautés, de jeux, de machins, très sérieusement, et de temps en temps, en glissant une petite blague, et...
Et puis surtout, petit mouvement de main.
Surtout Reggie, quand il est apparu la première fois, donc c'était le fameux « Je suis Reggie Fils-Aimé, je suis là pour prendre des noms et botter des culs », c'était à une époque où Nintendo, c'était un peu la marque pour les enfants. Enfin, c'était vraiment la période où la GameCube commençait vraiment à se faire bouffer par la Xbox, même en tout cas en dehors du Japon. Et je pense que c'est aussi ce qui a donné un petit coup de fouet à l'image de Nintendo, c'est le côté un peu « Bon, ben voilà, moi je suis pas... » un gentil petit japonais sumimasen, je suis un gorille, je suis Donkey Kong,
je suis un américain.
Son
imitation de Donkey Kong est très impressionnante.
Oui, non, mais en plus il a souvent été comparé à Donkey Kong parce qu'en termes de carrure et de, il a un côté bonhomme aussi, une bonhomie qui est assez proche du singe, enfin du singe du Donkey Kong pour le coup, hein. Je veux pas être mal interprété sur le coup, et c'est vrai que ça a donné un autre visage à Nintendo qui était pas celui d'Iwata avec Sari au milieu et pas celui de Miyamoto, un peu l'inventeur fou. Donc c'était aussi plutôt bienvenu. D'ailleurs, à l'époque, il n'était pas président de Nintendo America, hein, de mémoire.
Il était directeur du marketing, si je me rappelle bien.
C'est un ancien de Pizza Hut.
Oui, un ancien de Pizza Hut, un ancien de MTV. Il a eu quand même une petite carrière, Reggie, avant Nintendo, mais je veux dire, sa carrière Nintendo est forcément le plus connu, puisque c'est là où il est devenu véritablement un personnage public. Et c'est vrai que à côté de Iwata, qui était effectivement le président rangé, mais forcément sympathique, hein, cette merveilleuse phrase de Satoru Iwata, sur ma carte de visite, il y a écrit que je suis président de Nintendo. Moi, ce que j'aime dire, c'est que je suis développeur, et dans mon cœur, je suis un joueur. Voilà, ouais, c'est exactement ça. C'était cette espèce de président un petit peu atypique, surtout pour une société japonaise, d'ailleurs.
Ouais, surtout... Iwata, avant les Nintendo Direct, finalement, on avait juste l'image du président et on n'avait pas cette image de mec un petit peu décalé qui finissait une présentation E3 avec une banane dans les mains à la regarder pendant 5 secondes, quoi.
Non, mais c'est ça. Et juste à côté de ça, t'avais effectivement le savant cosinus Miyamoto qui part toujours un peu en couille, mais que t'as l'impression d'avoir Jack Sparrow à l'écran, mais version japonaise, quoi. Tu sais jamais vraiment de quoi il parle et c'est très nébuleux, mais au final, il arrive à t'amener vers l'idée qu'il avait envie de t'amener. Et c'est vrai qu'à côté de ça, Reggie Fils-Aimé, c'est le mec qui botte des culs, qui est la brute épaisse, mais effectivement, la bonhomie...
Qui peut être ton pote, ouais.
Qui peut être ton pote, qui peut te mettre très mal à l'aise s'il a envie. Je vous encourage encore une fois à regarder cette interview de Pro Jared avec Reggie Fils-Aimé. C'est vraiment très, très, très drôle, parce qu'on sent qu'il fait un peu exprès d'imposer sa stature, d'une certaine manière, pour poser des questions qui dérangent un peu, quoi. C'est un peu le jeu. Mais c'est vraiment assez rigolo à voir.
Il y a un autre truc qu'on avait, dont on n'a pas forcément parlé, pour dire, parce qu'on a parlé plutôt du positif. Moi, j'ai le souvenir d'une ou deux remarques un peu négatives qu'il a fait, notamment sur des jeux Nintendo qui n'ont pas eu trop de chance, qui n'ont pas réussi à arriver aux États-Unis. Alors, je pense à Disaster, Day of Crisis, jeu d'action de Monolith.
Qui était de la merde.
Qui était un bon gros nanar.
Qui était un bon gros nanar et qui, du coup, il a dit ben non, nous, aux États-Unis, on veut pas de ça. Un petit peu méchamment. Bon, sachant que le jeu était quand même relativement moyen, donc ça peut se comprendre, mais ça reste développé par Nintendo. Et il me semble que c'est aussi lui qui avait. Alors, ça, faudra vérifier. Mais en tout cas, quand on lui demandait si Xenoblade, The Last Story, et je sais plus, je crois que c'était Pandora Tower, allait sortir aux États-Unis, il avait un petit peu dit ben non, en fait, nous, ça nous intéresse pas. Un truc comme ça.
Je crois que c'est ça, oui, c'est Pandora's Tower, The Last Story et...
Xenoblade.
Alors, Xenoblade Chronicles, le premier sur Wii.
Oui, parce que, alors, pour rappel, Xenoblade sorti en 2010 au Japon, en 2011 à l'initiative de Nintendo Europe chez nous. Et en fait, est sorti en 2012 aux États-Unis uniquement chez GameStop, de manière plutôt confidentielle. C'est pas du tout un jeu que Nintendo America a essayé de publier chez eux. C'était un peu à l'époque où Nintendo Europe faisait un peu ce qu'il voulait en localisation, en fait.
Oui, mais c'est effectivement, il a quand même 2-3 casseroles au cul. La plus connue, je pense, ça reste quand même Mother 3. Ça a été le président de la localisation, de la pas-localisation de Mother 3 aux États-Unis. C'est quelque chose qui revient très 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 souvent. Je crois qu'il y a très 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 peu d'interviews dans lesquelles on lui a pas demandé et où en est Mother 3, quoi, en gros. Il s'est même fait héler, je crois, pendant l'ouverture du Nintendo Store de New York. Il y a des fans qui n'arrêtaient pas de dire « Quand est-ce qu'on aura Mother 3 ?» Et il a fini par un petit peu s'énerver. C'est... Voilà.
Après, à sa décharge, Mother 3, ça reste un jeu Game Boy Advance sorti en 2006 au Japon, donc... Enfin, moi, je comprends qu'il l'ait pas fait, tu vois.
Ah, mais je comprends aussi, mais c'est, de toute façon, c'était quand même... hyper compliqué à sortir comme ça, je pense.
Et d'ailleurs, il y a eu des... petite parenthèse, Mother 3, mais il y a eu des rumeurs qui sont sorties il y a pas très longtemps à propos de la localisation, donc il y a eu une volonté de localiser le jeu après Mother 1 et Earthbound. Mm-hmm. Après la ressortie d'Earthbound et la localisation de Mother 1. Et apparemment, ça a été annulé pour des questions de sujets sensibles dans le jeu. Et alors, pour ceux qui n'y ont pas joué, il y a effectivement des scènes qui peuvent porter à confusion, notamment donc, parce que dans le jeu, on rencontre des personnes qui s'appellent les Maxi, qui sont des travestis, clairement adultes d'ailleurs. Et il y a quelques scènes assez gênantes. Bon, après, ça reste de la 2D Game Boy, mais où clairement ils sont en train de faire des massages à Lucas, qui est, je rappelle, à 10 ou 12 ans, grand max, des massages et autres choses qu'on ne voit pas vraiment. J'essaie d'obtenir ses pouvoirs, mais c'est vrai qu'à mon avis, à cette époque-là, c'est très compliqué de faire passer ça, notamment aux États-Unis. Donc voilà. C'était la parenthèse Mover 3.
Tout à fait. Mais voilà. Et concernant son successeur, donc Doug Bowser, qui prendra ses fonctions le 15 avril, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'ancien directeur marketing. Alors, à part le fait qu'il a un nom de famille qui était prédestiné pour travailler chez Nintendo, que le mec a l'air d'avoir quand même un certain sens de l'humour, ça fait quelques mois qu'on le voit un petit peu discrètement du coin de l'œil, alors pas toujours dans les Nintendo Direct, mais on le voit à la Game Developer Conference, on l'a vu un petit peu à l'E3 sur le Treehouse.
On en parle dans notre Burger Quiz.
On en a parlé dans le Burger Quiz, on a été prémonitoire sur ce coup-là. Je sais pas trop quoi en penser, ça a l'air d'être un mec bien. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va finalement prendre une succession tranquille? Est-ce que vous croyez qu'il va tenter des choses un petit peu différentes? Est-ce que vous pensez qu'il va essayer de faire prendre une direction un peu différente à Nintendo of America? Ou est-ce qu'il va rester finalement dans la continuité de ce qu'a construit Reggie?
Tu parles en termes de boulot ou en termes de com?
En termes de com, en termes de boulot, les deux. Hein. En termes de com, je pense qu'ils ont intérêt à rester plus ou moins dans la même lignée, un petit peu second degré, dérision et tout ça, je pense que ça marche bien.
Il est bien parti, donc il y a la photo dont parlait Antix. Là,
tout à fait.
Merci, avec les peluches Mario et Luigi baillonnés derrière. J'en ai vu passer une autre où il est en train de monter un kit Nintendo Labo et puis assis à côté sur la table, t'as un Baby Bowser en peluche.
Voilà, celle-là était particulièrement drôle, je trouve.
Donc il a l'air assez funky comme bonhomme. Après, en termes de job... je ne sais pas.
En même temps, avec un nom pareil, c'était assez dur de pas...
Bah, c'est-à-dire que le mec a quand même intérêt à avoir un minimum de sens de l'humour et de l'autodérision, parce que sinon, je vois pas comment il va s'en sortir. Hein.
Ouais.
Je veux dire, bosser chez Nintendo et s'appeler Bowser, faut quand même... En plus, avec la bonne orthographe, c'est quand même assez extraordinaire, je trouve.
C'est clair.
Mais c'est vrai qu'en termes de métier, je vois pas trop... Enfin, aujourd'hui, la Switch est lancée. Plutôt bien lancé, donc effectivement, à part gérer le calendrier des sorties correctement, ce qui est quelque chose que Nintendo a toujours eu un peu du mal à faire, ces derniers temps c'était mieux.
Oui, alors je suis en train de penser, il y a un truc là, une grosse rumeur à deux doigts de la confirmation, a priori, qui est sortie la semaine dernière. Il aura ça à gérer, cette espèce de rapprochement entre deux. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, si on en parle tout de suite ou pas.
Alors, je prévoyais pas d'en parler du tout, donc si t'as envie d'en parler un tout petit peu, moi, y a pas de souci.
D'accord, bon, a priori, Microsoft et Nintendo se rapprochent au minimum niveau soft. Donc, voilà, des sources bien informées et tout. On parle de vraies sources, hein, on parle pas d'un individu dont le prénom commence par J. Coucou Chiez, si c'était pas clair. Et donc voilà, Ori et Cuphead sortiraient sur Switch prochainement. Et la suite de la rumeur parle d'une mise à dispo du... Alors c'est quoi ? C'est le Game Pass chez Microsoft. D'une mise à dispo étendue de ce service de streaming, donc y compris sur Switch.
Ce qui, de la part de Microsoft, ne serait pas forcément idiot comme mouvement, mais ça, ça fait que c'est Microsoft qui devient la petite biatch de Nintendo, finalement, parce que ouais, le truc est un peu à sens unique pour l'instant.
Voilà, de ce qui est révélé, je mets des guillemets, hein, parce qu'encore il n'y a pas eu d'officialisation, quoi que ce soit, c'est juste des trucs qui sont sortis sur des sites spécialisés. C'est ce qui s'en dit. Après, voilà, j'imagine que dans ce genre d'accord, il y a une contrepartie.
Bah, ou alors, Microsoft se dit... Enfin, moi, tel que je le vois, de tout ce que j'ai vu et lu comme fantasmes divers et variés, d'ailleurs, sur ce sujet-là, moi, ce que je vois surtout, c'est que Ori and the Blind Forest et Cuphead, c'est des licences dont le public, à mon avis, n'est pas sur, sur Xbox. Mm. Et je pense qu'en fait, le fait que Microsoft se dise « je vais les sortir ailleurs », c'est peut-être simplement un mouvement logique de dire bah, c'est le genre de licence qui est plus adapté à ce qui se fait chez Nintendo, parce que les jeux indés marchent beaucoup mieux chez Nintendo, et ce genre de jeu-là, les expériences qui ressemblent à du jeu indé, hein, Cuphead, ça ne l'est pas du tout, mais globalement, ça y ressemble quand même beaucoup. Des équipes assez réduites, des projets avec une idée forte qu'on essaye de développer et tout ça, ça collerait beaucoup plus à l'image de Nintendo. Donc que Microsoft se dise, en tant qu'éditeur tiers, finalement, je peux le sortir sur Switch, moi, c'est tout bénef pour moi. Voilà, puis le Game Pass, pourquoi pas. C'est pareil, l'argent, il va dans la poche de Microsoft, au final. Et Nintendo est content parce qu'ils peuvent proposer un catalogue un petit peu plus élargi, avec, avec des choses un peu différentes. Donc je dirais que c'est plutôt gagnant-gagnant pour le deuxième cas. C'est pas choquant pour le premier, parce qu'en termes marketing, ça n'a pas de sens en réalité de ne pas avoir Cuphead sur Switch.
Enfin voilà, du coup, si cet accord s'officialise, j'imagine que côté Bowser, ça représente un beau dossier à gérer.
J'imagine aussi.
Pour une entrée en matière.
Je vous propose de faire une première petite pause musicale, et c'est un morceau qui nous a été proposé par Mecton.
Oh putain, tu l'as mis, c'est bon ça.
Ouais, alors tu sais pas lequel j'ai mis.
Ah.
Ah ah. C'est là où je vais peut-être savoir. On va donc s'écouter le thème B de Tetris, chanté a cappella par le barbu qui chante.
Ah parfait.
Voilà, et ça fait plaisir. Ça dure un petit peu plus de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après pour parler de Tetris Battle Royale. Et nous voilà de retour. Alors attendez, je change ça. Voilà, hop. Donc Tetris 99 ou Tetris Battle Royale pour les intimes.
Grand jeu de la fin du 20e siècle.
Peut-être le jeu vidéo le plus emblématique de l'histoire du jeu vidéo.
Non.
Parce que tu peux essayer de mettre tous les Pac-Man du monde en face, t'as quand même un truc qui a survécu depuis 30 ans, en se renouvelant très régulièrement avec des nouvelles formules, des nouvelles façons de jouer. Et là, on a encore une nouvelle façon de jouer qui est assez, assez folle, puisque c'est effectivement le Fortnite, mais avec du Tetris, quoi.
D'ailleurs, c'est un jeu qui est très lié à l'histoire de Nintendo, vu que c'est celui qui a lancé la Game Boy. Rappelons-le.
Oui, et qui a été une des grandes batailles de Nintendo concernant le licensing de la version console. Ça a été un des grands chevaliers de bataille de Nintendo. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote, le jour où Yamauchi en fait, se posait la question de savoir s'il allait licencier Tetris, c'est-à-dire s'il allait acheter la licence Tetris pour NES, en fait, il était en train de négocier avec un Américain dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle, je sais plus comment, je suis désolé, le nom m'est sorti de la tête, et Yamauchi lui demande à un moment, en japonais, mais est-ce que vous croyez vraiment que ça peut fonctionner, quoi, en gros. Et l'Américain lui répond, bah écoutez,
hold my beer.
C'est un peu ça. Votre secrétaire, il joue déjà depuis un quart d'heure et elle a pas déscotché de l'écran. Moi, à mon avis, ça peut marcher. Et c'est à ce moment-là qu'Yamauchi se serait rendu compte. Alors, la légende veut qu'Yamauchi se soit dit, mais si même une secrétaire qui n'y connaît pas grand-chose en jeu vidéo et que ça n'intéresse pas forcément est scotchée par Tetris, ça va être un carton.
Et donc, mais il a eu raison, parce que c'est ça qui a fait que ça a marché auprès d'un public adulte. Tout à fait.
C'est le, jeu, c'est le jeu casu par excellence, mais qui en même temps peut devenir hyper hardcore. C'est vraiment l'archétype du jeu vidéo, c'est-à-dire le truc où une fois que t'es concentré, bah t'es dedans, et tout le reste autour de toi s'effondre, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, il y a juste les briques qui tombent et qui font des couleurs, des lumières et des machins, et c'est tout, quoi. Moi, je trouve ça assez génial quand t'arrives à avoir ce niveau de concentration-là. Il y a très peu de jeux qui te permettent de faire ça. Pour moi, il y a les shoot'em up, qui à un moment... le monde autour de toi n'existe plus, il y a toi, la manette, l'écran, et c'est tout, et c'est pratiquement un délire de type trip audiovisuel, où pratiquement, et Tetris peut faire à peu près cet effet-là à certaines personnes, c'est-à-dire vraiment, t'es in the zone, et il n'y a plus rien autour de toi.
Alors moi, ça me le fait aussi avec les jeux stratégie.
Oui, ça peut.
D'ailleurs,
Fire Emblem marche très bien dans certains cas pour ça.
C'est ce que j'allais dire, Wargroove me l'a fait, et Valkyrie Chronicle est en train de me le faire.
Ah, voilà, tu vas commencer, cool.
Ça peut très vite se passer comme ça. Bref, donc là l'idée c'est tu joues à Tetris contre 99 autres personnes en simultané. Et donc comme pour un Tetris en versus, chaque fois que tu vas abattre deux lignes ou plus, tu vas envoyer des blocs d'échelle. Chaque fois que tu vas faire un T-spin, tu vas envoyer des blocs d'échelle. Chaque fois que tu vas faire un combo, c'est-à-dire éliminer plusieurs lignes à la suite, avec plusieurs pièces, tu vas envoyer des blocs d'échelle. Alors évidemment tu l'envoies pas à 99 personnes parce que ce serait beaucoup trop bordélique.
En fait, tout le monde mourrait en 30 secondes, surtout.
Je pense que ce serait à peu près ça.
What the fuck, boom.
En fait, tu as des stratégies prédéfinies qui sont... alors, je crois que c'est chevron, riposte, aléatoire, et je me souviens jamais du dernier, chaos facile.
C'est ça. Chaos facile, c'est pour tuer les mecs qui sont sur le point de mourir.
Qui sont dans la merde, déjà.
Ouais, riposte, c'est comme son nom l'indique, aléatoire aussi. Et chevron, c'est en gros tout un système de chevrons qui est pas du tout expliqué dans le jeu. Quand tu fais des kills, tu gagnes des chevrons et ça augmente, enfin c'est des multiplicateurs pour tes déchets.
Pour tes déchets.
Ah oui, donc en fait c'est les mecs qui ont tué le plus de gens que c'est tu ça. Cibles quand tu cibles les chevrons, en gros.
Les mecs qui ont le plus de chevrons, parce que quand tu tues à quelqu'un qui a beaucoup de chevrons, tu récupères ses chevrons.
D'accord, donc c'est ok. Alors je peux vous dire que ici moi j'ai une accro. Hein, qui ne décolle pas de Tetris 99 depuis genre une semaine. Enfin non, deux semaines d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai téléchargé. C'est le scotch le plus total. Elle rage à longueur de journée. Je suis désolé.
Tu entends sans arrêt une dernière et j'arrête.
C'est exactement. C'est vraiment le syndrome une dernière et j'arrête. Et il y a aussi... c'est la fête à mon cul. Voilà, effectivement.
Celle-là, elle compte pas, j'en fais une.
Et la dernière aussi, il y avait... Ah, mais putain, mais c'est mon anniversaire ou quoi? Voilà, je suis obligé de dénoncer parce que je trouve que c'est grave. Tetris détruit des familles. Tetris 99. Non, mais voilà, enfin, c'est assez ouf comme concept parce qu'effectivement... T'es pris au jeu, dès qu'il reste plus que 50 joueurs, il y a une première augmentation de vitesse, dès qu'il reste plus que 25 joueurs, il y a une deuxième augmentation de vitesse. Puis à 10 joueurs, t'as encore une augmentation de vitesse qui est en fait la vitesse Tetris Grandmaster, c'est-à-dire que là les pièces se...
Elles tombent instantanément,
elles se lockent pas immédiatement.
Avec le vol du bourdon en musique au fond pour bien te mettre...
Ouais voilà, le truc te met la pression au fur et à mesure... Et c'est juste assez génial de se comparer à d'autres gens et de se dire tiens, si j'ai un peu de bol, je peux peut-être faire un top 3, top 4. Donc j'aurais éliminé 95 autres personnes à Tetris. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisque effectivement, comme dans un Battle Royale, tu tues pas tout le monde. L'important c'est d'être le survivant. Et donc tu peux commencer à déployer des stratégies complètement folles en te disant bah, à partir de 50, je fais de la riposte. Sinon, je cible manuellement certaines personnes dont je vois qu'elles sont un peu dans la merde ou que j'ai envie d'éliminer parce que je vois qu'elles ont un gros niveau ou des choses comme ça.
Ça demande à réussir à voir qui est dans la merde sans utiliser les routines automatiques, enfin les stratégies automatiques. C'est quand même assez compliqué parce que t'as quand même des trucs à gérer qui s'appellent les tétrominos. Et souvent, t'as des mecs qui t'agressent en même temps.
Ouais, mais tu vois en fait les. Je sais pas si t'as vu, mais les mecs clignotent en rouge quand ils sont dans la merde, et en fait tu vois les niveaux des gens. Donc tu peux du coin de l'œil arriver à repérer quelqu'un et à te déplacer dessus et tout ça. Par contre, effectivement, à partir du moment où t'es en top 25, t'es obligé de te concentrer sur tes tétrominos. Là, t'as pas le choix, je pense.
Il y a un moment où en fait t'es juste dans ta zone Il faut que tu ailles le plus vite possible. En plus, t'as évidemment, tu sais évidemment ce qui va t'arriver sur la gueule. Il suffit que t'aies 2-3 personnes d'un coup qui aient décidé de te balancer des déchets pour que ça monte très, 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 très vite.
Ah oui, non, mais à partir du moment... Moi, je me rappelle d'une partie de Muse dans laquelle il y avait 5... Elle était en riposte. Et en fait, quand c'est en riposte, ça fait tiling, t'as une espèce de petit jingle pour te dire, tiens, il y a une nouvelle personne qui te cible, et du coup, tu vas la cibler en retour. Et tout d'un coup, j'entends tiling, 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 tiling. Et là, c'est là qu'elle a dit, ah putain, c'est mon anniversaire. mais on en est là, quoi. On en est à... effectivement, il y a des fois, c'est juste pas de bol, et t'as l'impression que tu t'es fait tuer comme un con parce que t'as mal géré un truc ou que t'as été ciblé par 50 personnes en même temps, tu sais pas trop pourquoi.
Par contre, putain, tu vois, qu'est-ce que c'est jouissif quand t'entends... Tu vois 5 mecs qui te ciblent et t'entends KO, 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 KO.
De toute façon, le jeu, de manière générale, il est jouissif.
Enfin, ah, y a un truc assez addictif, vraiment, sur le côté... Bah, déjà, c'est super... déjà, c'est gratuit. Je crois que je suis plus sûr à dire.
Tant c'est gratuit tant que tu es abonné Nintendo Switch Online. Hein,
enfin, non, c'est gratuit, mais comme c'est un jeu en ligne, de toute façon, t'as pas le choix.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais c'est un peu le. Enfin, on en parlera après. Allez, je t'en prie, je te laisse finir parce que je vais effectivement en glisser une toute petite juste après.
Donc, du coup, c'est un jeu qui reste quand même gratuit pour les utilisateurs du Nintendo Switch Online. Donc, ça, je pense que ça faisait partie des choses qui ont été promises par le président il y a quelques semaines pour justement rendre l'offre plus attractive. Parce que lors des actionnaires, il a montré que ben il y avait 8 millions de comptes, mais c'était souvent des comptes courte durée, genre au mois ou au trimestre, et qu'il voulait des gens qui s'abonnent à l'année en fait.
On est d'accord, quand il parlait de renforcer l'offre, on pensait à des jeux Super NES ou ce genre de conneries.
C'est ça. Et là, ils nous ont balancé un truc sorti de nulle part, un concept original, on va dire. Et du coup, bon, c'est un jeu qui est très simple parce que quand t'arrives, t'as que 3 options dans le menu. Je crois que c'est statistiques, paramètres et jouer. Donc, t'as un mode de jeu, t'appuies sur jouer et en fait, tu te rentres directement dans la partie. Vu que le jeu vient de sortir, il y a quand même pas mal de monde qui joue. C'est assez facile de se trouver 98 joueurs pour jouer avec toi.
Ça prend 20 secondes.
Voilà, et donc, du coup, ça joue tout seul. Et puis, bon, comme c'est pas très compliqué, Tetris, en termes de. D'affichage, ben, côté netcode, ça suit, il n'y a pas de lag, donc c'est quand même plutôt transparent.
Le truc, c'est que même s'il y avait du lag, je ne suis pas certain que tu t'en rendrais beaucoup compte, puisque finalement, c'est très asynchrone comme jeu, au sens où les blocs qu'on t'envoie, ils s'empilent d'un côté pour avant de te décharger dans la gueule et de faire monter ton niveau de jeu, ils s'empilent pendant un certain temps. Donc en fait, je pense que même avec une connexion très pourrie, ça doit fonctionner relativement bien.
Oui, mais du coup, c'est un jeu qui est vraiment simple à prendre en main. Après, c'est le concept de Tetris. Donc, on parlait des T-Spin tout à l'heure. Je suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce qu'il faut faire. Moi, j'ai découvert ça justement en jouant à Tetris 99. Mais ça reste Tetris avec ses concepts extrêmement basiques de j'empile des blocs jusqu'à faire des lignes et hop, ça fera des scores. Et ça marche super bien en fait. Et surtout, ça change des autres Battle Royale qui sont plutôt à base de j'ai un flingue et je tire sur les autres mecs sur la carte. Et c'est là où le concept est assez intéressant en fait.
Bah, moi, ce que je trouve assez fou, c'est. Enfin, ça, je trouve ça assez fou, c'est-à-dire que les mecs se soient dit, tiens, on va faire un Battle Royale, mais avec un jeu de réflexion. Et en fait, ça marche hyper bien. Enfin, c'est génial, fallait juste y penser, quoi, mais c'est génial. J'attends avec grande impatience une adaptation de Dr. Mario ou de Tetris Attack. Tetris Attack, ce serait juste la folie si les mecs font un Battle Royale Tetris Attack. J'en connais une, elle va pas décrocher. Hein. Déjà, là, c'est compliqué. Mais voilà. On parlait donc d'exclure Nintendo Switch Online. C'est vrai que tout le monde s'attendait à une console virtuelle Super NES, un peu comme on a la console virtuelle NES, qui est très bien finalement, dans lequel ils rajoutent toujours 2, 3, 4 jeux par mois, ce qui est hyper sympa. Il y a des versions simplifiées, un peu façon NES Remix, qui permettent à tout un chacun de pouvoir jouer un petit peu plus facilement à quelque chose comme Gradius, qui est peut-être un peu hardcore, à pouvoir s'amuser rapidement sur des jeux NES sans se prendre la tête pendant des heures. Enfin, le truc marche plutôt pas mal, quoi. Donc on s'attendait tous à ça, et finalement, pouf,
boom.
Tetris 99. Est-ce que vous pensez que Nintendo en a d'autres comme ça dans sa manche? Des petites exclus un peu toutes bêtes. Je pense à, pour le lancement de la 3DS, enfin, un peu après le lancement de la 3DS, il y a eu un Excitebike 3D, qui était en fait juste Excitebike sur NES, mais porté en 3 dimensions.
Avec une profondeur de champ, c'est tout ce qu'il y avait.
Exactement, il y avait juste ça, c'était gratuit. Il n'y avait pas de contrepartie particulière. Et puis, bah, c'était un petit jeu fun. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire ce genre de choses-là? C'est-à-dire soit offrir des jeux en mode, bah, tiens, tel petit jeu qui normalement est à 5 balles sur l'eShop, bah, on vous l'offre si vous êtes Nintendo Switch Online, ou même reprendre des exclusivités de jeux en ligne type Dr. Mario World, que, je sais pas, n'importe quel autre truc de ce genre-là qu'on puisse imaginer, ou peut-être une version gratuite ou free-to-play d'un Splatoon 2, par exemple, pour essayer d'attirer un peu les gens.
Bah, ils en sont totalement capables. Alors, j'ai vraiment été surpris par l'annonce du Tetris. Et du coup, alors je sais pas si j'ai pas d'idée ou si j'ai la flemme de réfléchir pour accueillir une bonne surprise, tu vois.
Tu ouais, préfères être surpris et te dire putain, dans 3 mois ils vont nous sortir un truc aussi énorme que ça et sans problème quoi, en claquant des doigts.
Peut-être pas dans quelques mois, mais cette annonce est tellement venue nulle part par rapport à ce qu'on attendait. J'ai envie d'être encore surpris à ce point-là.
D'accord. Antique, c'est un avis sur le sujet. Est-ce que tu penses que parce que on a ce que tu nous rappelais pendant la petite pause ou Mecton, je sais plus, qu'il y a quand même Oscar, le maire. Ancien dojo maintenant chez Gamekult, qui disait putain, je suis presque tenté de prendre un abonnement juste pour Tetris 99 tellement ça me fait triper comme jeu quoi. Donc c'est quand même ça pourrait être un abonnement seller quoi.
J'ai des collègues qui m'en ont déjà parlé au boulot, qui voulaient tester le truc et qui sont grave saucés quoi. Après voilà, quand je leur ai dit c'est une exclue console et ça, c'est, ils ont commencé à dire merde putain. Pas balancer 300 balles pour jouer à Tetris, mais
ça c'est peut-être compliqué. Mais si t'as déjà une Switch,
ça les gratouille quoi.
Si t'as déjà une Switch,
ça les gratouille.
Les 20 balles de l'abonnement par an, c'est pas si cher que ça. Hein. Mmh. Non mais peut-être quelque chose. Hein.
Pour le coup, donc pour rester dans le concept, alors des concepts originaux, ça me surprendrait pas qu'ils en sortent, mais un autre truc que je les verrais bien faire, et je crois qu'ils l'avaient fait sur certains jeux consoles virtuelles Wii U. C'est prendre des jeux multijoueurs populaires des anciennes consoles et de leur filer un mode en ligne. Je crois que
ils l'ont fait sur la NES Online aujourd'hui. Hein.
Ah, ils le font déjà.
Ah oui, tu peux le faire. Hein.
Mais je pensais plus à pas forcément des jeux NES ou même Super Nintendo, mais des trucs un peu plus récents, au hasard F-Zero ZX. Qui serait écoute... à mon avis, le meilleur moyen de genre refaire sortir F-Zero de son tombeau sans trop se prendre la tête.
Donc une sorte de F-Zero GX HD, mais juste avec le mode multi par exemple, qui serait amputé de tout un tas de trucs sauf le mode multi, et tu dirais, allez c'est gratuit, c'est une exclu, démerdez-vous.
Ça peut être un truc comme ça, oui, musique online.
Putain, non, mais...
Ok, je me casse.
Tu vois, après, F-Zero c'est peut-être pas le jeu le plus porteur, mais je trouve que ça peut être un exemple parlant. Pour...
Ça peut être sympa.
Ça peut être sympa. Et en plus, c'est super parce que F-Zero, dans F-Zero X, il y avait une espèce de mode, fallait tuer tout le monde, donc tu pourrais même ajouter un mode Battle Royale.
Ah oui, F-Zero
mais
Battle Royale.
Mais dans F-Zero.
Ah putain, ce serait tellement énorme.
Et avec les circuits d'F-Zero, il y a quand même moyen que ce soit rigolo.
Ah, il y a moyen de faire quelque chose. Hein.
Bref. Je sais pas, une espèce de companion app pour Animal Crossing.
Animal Crossing Battle Royale. Ah putain, s'ils le font, gars, mais là, moi, Animal Crossing, je l'achète, pas de problème. 100%
mais,
j'assume.
Là, pour le coup, l'idée de la companion app, c'est pour Animal Crossing, pour le, enfin, genre une espèce de mode annexe en ligne et compagnie où tu peux récupérer, juste, enfin, tu peux jouer en ligne avec tes potes sur Animal Crossing, je pense que ça marcherait super bien.
Sachant, il y avait ça sur la version 3DS, t'avais une île avec des mini-jeux. Là, les mini-jeux, tu les déportes dans une appli à part réservée aux abonnés. J'en sais rien. C'est.
Ouais, de toute façon, à partir du moment où ce sera en ligne, tu vas être obligé de forcément pour être là pour les abonnés. Donc, je pense qu'Animal Crossing peut être assez moteur de ce côté-là aussi. Hein.
Ou alors Pokémon. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va peut-être faire une petite pause musicale et entamer sur le Pokémon Direct et le Nintendo Direct, puisque.
Alrighty.
Puisqu'il va falloir bien falloir s'y mettre à un moment.
Il va falloir en mettre un coup.
Voilà, du coup on va s'écouter bah, du coup le thème A de Tetris. Voilà, c'est bien, on a fait le thème B, le thème A. Le remix Super Smash Bros. J'ai failli reprendre la version, l'excellente version du Barbu qui chante, mais Monsieur Smooks McGroove, on essaie de pas en mettre trop parce que sinon on mettrait que ça. Voilà, donc ça dure un tout petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite. We'll be right back.
Bonsoir, bon poignon mort.
Enculé.
Ah, tu as raison.
Ah, et c'était le direct.
Ah, merde.
Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Échec, échec critique.
Alors,
et nous voilà de retour.
Tour. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas dit qui avait fait le meilleur score à 99.
Ah oui, JBC nous avait demandé, on n'a même pas dit.
Voilà, et moi je veux le faire parce que j'ai réussi un top 1.
Ouais. Enculé.
Top 2 pour Mecton. Moi personnellement, je crois que j'ai fait un top 5 au mieux. Mais je perds pas espoir. Et Muse a fait un top 3, elle a fait un podium.
Nice.
Donc on a quand même.
Mais en mode survie de l'extrême, quoi.
Tu sais qu'il faudrait qu'on essaye. De couper le son, quoi. Putain, joli.
Voilà. C'est... Non, mais bon, donc on va l'entendre rager.
Je pense qu'il y aura un dojo direct à base de essayons d'avoir le top 1 à Tetris 99.
Mais il y aura. Alors, le problème, c'est qu'en fait, dojo direct, il y en a beaucoup que j'aimerais faire et j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps, ça a été vraiment très compliqué. Mais je voudrais faire du Captain Toad en coop, on va en parler dans quelques minutes. Il y a Deus Ex Machina, que tant que la démo est dispo, j'aimerais bien pouvoir en faire un bout de direct parce que je l'ai fait déjà 2-3 fois la démo, donc je commence à bien avoir le truc dans les doigts. J'ai d'ailleurs réussi à faire un perso absolument ignoble.
Ah, ça me fait plaisir.
Ah bah c'est le retour de Pandafoon. Hein. Je veux dire.
Parce que moi il avait la peau verte, pas mal de rides et il avait les cheveux roux.
Mais tu te rappelles? Ah non, tu te rappelles pas? J'avais un personnage dans Xenoblade Chronicles X. J'avais réussi à faire Pandafoon, c'est-à-dire qu'elle avait le tatouage du panda, les yeux violets, une coupe de cheveux merdique. Et enfin rien, c'est vraiment. Bref.
Bah excellent quoi.
Je vous propose de commencer par le Pokémon Direct qui a eu lieu cet après-midi, qui a duré très peu de temps, 7 minutes.
Ouais, comme toi la première fois.
Comme la Team Rocket, plus rapide que la lumière.
C'est un peu ça. Donc le nouveau Pokémon, donc c'est bien la génération 8. Mm-hmm. Donc c'est bien une nouvelle génération. Ça arrive sur Switch, pas sur 3DS, pas sur machin, c'est sur Switch.
Mm-hmm. C'est pas un remake.
Ce n'est pas un remake, il s'appellera Pokémon Sword et Pokémon Shield, donc épée et bouclier. Alors j'ai vu, c'est traduit à peu près partout de la même manière, hein, la version allemande, qui est le direct que j'ai vu, moi c'est le direct allemand, ne me demandez pas pourquoi. Et donc c'est bien Sphere de Shield, donc c'est bien épée et bouclier. On a eu la présentation des trois nouveaux starters, j'ai pas leur nom en français, j'ai leur nom en allemand du coup.
Alors il y avait Wistit Tempo, qui est un singe de plante, et j'ai oublié les deux autres.
Le lapin et le caméléon.
Il y a un lapin, il y a un reptile...
Flambino, amphibien, en fait. Flambino, c'est bien, une dédicace président, tout ça.
Tu te fous de ma gueule?
Le lapin, c'est Flambino.
Putain, mais ils vont se faire défoncer par Danette, hein. Je sais même pas à qui ça appartient, ça, c'est pas grave.
C'est super efficace.
Et donc tout ça va se dérouler dans une nouvelle région, Galar, qui est déjà officiellement inspirée de la Grande-Bretagne. Apparemment c'est l'île de Grande-Bretagne inversée, nous dit-on. Il y a effectivement l'Écosse au nord, froide, machin, il y a les cottages, les machins, les villes un peu plus industrielles, et ainsi de suite. Donc ce serait...
Il y a une grande ville au milieu avec Big Ben tout en haut.
C'est ça. Ce serait donc une Angleterre post-victorienne ou post-industrielle, on sait pas exactement.
Et d'ailleurs avez-vous remarqué le nom de la nouvelle région? Quand tu bouges les lettres, ça fait Graal.
Ah non, j'avais pas vu.
Et voilà, moi je savais que c'est Twitter qui a fait la remarque. Du coup, ce qui expliquerait peut-être le côté épée, bouclier.
Ah oui, donc il referait un petit peu la légende arthurienne. Du coup, Grande-Bretagne, ce serait un peu logique aussi.
Il y aurait un peu de ça.
Couillère.
Mais en tout cas, ça avait l'air cool, ça avait l'air joli. Ce qui fait quand même plaisir, c'est pas
ça
toujours
aussi,
le cas.
Ça avait aussi l'air d'être la même chose que d'habitude.
Oui, mais ça.
Mais ça, c'est Pokémon.
C'est Pokémon. Si on avait eu Drosgar ou Galaxies, ils nous auraient dit de toute façon, ça fait 20 ans qu'ils jouent au même jeu, les mecs. Donc voilà, l'objectif c'est quand même de devenir le meilleur dresseur et de battre Régis ou son équivalent britannique dans le tournoi final à la fin quand t'as eu tous les médaillons de l'île, quoi.
De pas Réginald.
Peut-être Réginald. Peut-être Réginald. Voilà, donc je sais pas si vous avez d'autres choses à en dire. Moi je trouve ça bien que ce soit comme un Pokémon sur Switch, un vrai, c'est-à-dire que la série va enfin passer sur autre chose. Je pense que ça va imprimer des millions de des milliards de dollars, de yens et d'euros quand ça va sortir.
Fin d'année pour Noël, c'est ça?
Ouais. Je crois que c'est le jeu de Noël. Ouais.
Pour faire de l'argent à Noël avec Animal Crossing.
Animal Crossing pour l'instant.
J'y crois pour cet été, moi.
Non, j'y crois plus pour cet été.
Cet été, il y a trop de choses qui sortent.
Mais c'est vrai qu'il y a Mario Maker 2. Enfin bon.
Bah, disons allez, que si tu veux pourrir Fire Emblem et Mario Maker, sort Animal Crossing en même temps. Ouais, quoi.
C'est un peu ça. Ouais. Super Mario Maker 2, c'était la première annonce du Nintendo Direct.
Alors moi, j'ai cru que c'était un portage de l'épisode Wii U. Parce que je me suis dit, il fallait un jeu Wii U porté.
Et pourtant, dès la première seconde, on te fait une rampe qui n'existait pas dans la version Wii U.
Alors, n'ayant pas joué à la version Wii U, et effectivement, ce détail ne m'a pas marqué sur le coup. Et après réflexion, je fais, mais oui, c'est évident.
Avec une nouvelle interface. Alors, on peut y jouer au tactile, mais apparemment, il y a une nouvelle interface avec des menus radio.
Oui. Plus adapté au fait qu'il n'y ait qu'un seul écran.
Et qu'il y ait une manette surtout et pas un écran tactile.
Voilà, ce qui explique à mon avis pourquoi c'est pas un portage et que c'est un épisode 2, c'est qu'il y a eu toute l'interface à repenser en fait.
Et il y a aussi une petite nouveauté, c'est que sur tous les artworks officiels pour l'instant, alors ça n'a pas été confirmé, on pourrait dire que c'est une rumeur, mais c'est pas tout à fait une rumeur.
Non, appelle ça une exclue.
C'est une exclusivité. Il y a Mario et Luigi sur la pochette, mais il y a aussi Peach, Toad et ainsi de suite. Donc il y a plein de gens qui se disent, hey, si ça se trouve, il serait peut-être jouable en multi. Ce qui ferait aussi une... Enfin, ce serait quand même sacrément sympa d'avoir Super Mario Maker, mais où tu peux jouer à deux dans les niveaux.
Ce qui serait logique, vu que parmi les nouveautés qui n'ont pas été dites au cocktail, mais quand tu fais attention au trailer, ça se voit, il y a beaucoup d'assets qui ont été reprises de Mario 3D World, notamment le costume de Mario Chat.
Exactement.
Et qui était un Mario multijoueur, je le rappelle.
Donc moi ça me choquerait pas, et effectivement le fait de voir Mario et Luigi côte à côte sur la pochette, plus je te dis les Peach, les machins, il y a tout un tas de trucs qui me font dire que voilà. On est d'accord que maintenant il n'y a plus aucune raison valable d'avoir une Wii U.
Wonderful 101.
Xenoblade Chronicle X.
Pikmin 3.
Ok, donc c'est vos trois dernières cartouches les gars, vous êtes au courant.
Là, oui, oui, quand même très bon.
Pour la majorité des gens, Super Mario Maker était encore quelque chose qui justifiait le fait d'avoir une Wii U. Ça y est, c'est fini, quoi. Mm. On est d'accord, officiellement, c'est bigger, better, mais c'est surtout, il va y avoir quand même plein de trucs.
Bah, surtout, Nintendo Land, c'était bien.
Ce sera sur une console, il y aura des joueurs actifs, en fait. C'est ça qui sera intéressant pour le Mario Maker 2. Hein.
Faut quand même le dire. Mais s'il y a du multi, alors je sais pas s'il y aura du multi en ligne, c'est peut-être bizarre, mais là, le fait de pouvoir, pareil, le Nintendo Switch Online, ça va forcément créer une espèce de marketplace Mario Maker 2 où tu pourras échanger des niveaux exactement comme dans le 1, sauf que le Miiverse n'existe plus, donc on peut plus le faire. Mais ça pourrait vraiment être rigolo, quoi. Ça enchaîne ensuite avec Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order.
Alors tapez, Marvel, tapez.
Voilà, Marvel Ultimate Alliance, c'est Baldur's Gate mais avec Marvel. Je sais pas s'il y a grand chose à en dire à part ça.
Ils ont mis beaucoup en avant Captain Marvel parce que le film sort dans je sais plus combien de semaines.
De toute façon, c'est pas une exclue ce jeu.
Si, il me semble.
Ah merde.
Si.
Temporaire, ah ok.
Certainement, mais
c'est développé par Koei Tecmo.
Ah ouais, my bad. En fait, je pensais que c'était pas une exclue. Ok. Blam, boum.
Allez.
D'accord, bon bah une bonne nouvelle. Si c'est une exclue, en tout cas ça fait plaisir. Marvel Ultimate Alliance, il y a le 1 qui était sur GameCube et le 2 aussi, je crois.
D'ailleurs, je sais plus lequel des deux à la base devait avoir Link et Samus. Ça avait été présenté sur les screenshots et ça a été annulé. Et la raison apparemment serait que c'était les screenshots avec des boutons de PlayStation 2. Nintendo a pas aimé, leur a fait bah allez vous faire foutre.
Ça m'étonne pas. On enchaîne avec Box Boy, Box Girl. Box Boy plus Box Girl. Alors je rappelle que Box Boy, c'est un jeu qui est sorti sur 3DS avec un amiibo exclusif d'ailleurs.
Il y en a. Oh
seulement au Japon.
Oh
ah oui oh. Tu savais pas qu'il y avait un amiibo exclusif? Putain, mec, faut que tu parles beaucoup plus souvent à Pab. Hein. C'est un fou, c'est un taré. Et donc, le jeu.
C'est un marshmallow sur un socle, d'accord.
C'est ça, il est rigolo en plus, c'est le genre d'amiibo qui marche bien parce que, comme c'est que des aplats de couleurs avec des formes très simples, en fait, ça rend hyper bien. Et donc, Box Boy plus Box Girl, ce sera, de ce que j'ai compris, de ce qu'on a compris, une compilation de tous les jeux Box Boy, plus des niveaux inédits, plus les niveaux avec Box Girl qui sont en fait des niveaux en coop. Donc, c'est cool. Box Boy, c'est un très très bon puzzler, donc.
C'est le laboratoire qui fait le jeu.
Je crois que c'est le laboratoire qui fait le jeu. Et j'ai toujours été un peu pas choqué, mais on va dire que j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'il soit jamais sorti en Europe. Alors il est peut-être sorti sur l'eShop, mais jamais en boîte, quoi. Donc là, si ça sort en boîte, c'est une excellente nouvelle parce que c'est un très bon petit plateforme puzzle des familles qui fait plaisir. Ça, on va passer. Alors il y a la mise à jour de Captain Toad Treasure Tracker qui permet de jouer à deux. pour l'avoir essayé, et on va essayer de le twitcher dans les semaines à venir. Alors, c'est bien, sauf que les deux joueurs contrôlent la caméra, donc c'est vite bordélique.
Ah, cet enfer.
Donc voilà, donc il faut, je pense qu'il faut y jouer avec, il faut y jouer. Tu peux pas laisser deux enfants. Tardy disait qu'il a laissé ses deux gamins jouer à Captain Toad ensemble et que ça a été le bordel. Et qu'en fait, il s'est mis à prendre la manette et comme ça, c'était moins le bordel parce qu'il pouvait rester à côté de son gamin, enfin de l'avatar de son gamin, le laisser manipuler la caméra lui et juste lui donner des indications. Donc je pense que ça peut être très sympa à jouer, mais voilà. Alors on attend peut-être la version 2 joueurs sur 3DS. Je ne sais pas.
C'est vrai qu'il était sorti. Tu avais déjà oublié celui-là, tu vois.
Mais la 3DS... Je rappelle d'ailleurs que c'est le premier Nintendo Direct où il n'y a rien sur 3DS. Bloodstained Ritual of the Night. Bah, voilà, écoute, on en a parlé.
Bah, écoute, j'avais absolument aucun espoir pour ce jeu quand on a vu les premières images du jeu. Parce que ça avait l'air moche, mou au possible. Et là, ça a toujours l'air moche. C'est fauché comme un jeu Falcom. Avec de Is, mais ça a l'air d'avoir un petit peu de patate, donc en fonction des retours et du prix, bah, moi je serais peut-être tenté.
Les retours sur la démo étaient catastrophiques et c'est pour ça que les mecs ont pris un peu de temps pour revoir leur copie.
Mais d'ailleurs, c'est WayForward, les mecs de Shantae et de Mighty Switch Force.
Ah, j'ai cru que t'allais dire Mighty No. 9, c'est une insulte.
Non, ça c'est une secret qui bossait sur le projet avant d'ailleurs, hein, il me semble.
Ouais, il y a eu... en fait, le par rapport au Kickstarter, le truc a quand même été bien manipulé. C'est vrai que pour l'instant, du Kickstarter, il en est sorti une très très bonne... Enfin, la préquelle, hein, Bloodstained, je sais plus quoi. Curse of the Moon, un truc comme ça.
En gros, Castlevania 3
Castlevania 3 bis.
Exactement.
Dont j'attendrai, moi, une sortie de boîte, ça me ferait bien plaisir, tiens. Ce serait rigolo. Ou alors en bonus avec Ritual of the Night, ce serait quand même sympa. Mais voilà, le jeu pour faire patienter les gens qui était très bien.
Parce qu'à la base, ça devait sortir en 2018 de mémoire.
C'est ça.
Non, en 2019, donc ils se sont ratés, non.
Ils sont bah, comme tous les Kickstarter, en fait, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a été à l'heure, au final.
C'est rare.
C'est extrêmement... À part, bah non, il y a notre grand copain Shovel Knight qui était à l'heure.
Ouais, ils sont à la bourse sur les extensions, d'ailleurs. Elles ont été retardées.
On a eu ensuite la section Dragon Quest avec Dragon Quest Builder 2. Alors ça, on avait déjà ça. Dragon Quest Builder 1, c'est Minecraft de Dragon Quest. Et Dragon Quest 11S, Echoes of an Elusive Age, définitive édition.
Ou les combattants de la destinée en français.
Voilà, alors, je suis désolé, j'ai repris le Nintendo Direct anglais moi, pour préparer l'émission, donc effectivement, j'ai peut-être pas tout.
Moi, je suis assez chaud pour Dragon Quest 11. En plus, c'est la version un peu ultime parce qu'il y aura il y aura les doublages, il y aura quelques ajustements de la version. PS4 normal, et il y aura la possibilité de passer en mode 2D, ce qui était inédit la version 3DS japonaise, et qu'on va avoir accès sur la version Switch. Et pourquoi c'est une bonne chose? Parce que apparemment en 2D ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite de se déplacer.
Putain, ce truc bassement matériel de « ouais mais le jeu il va plus ».
En tout cas, c'est ce que disaient les mecs de Gamekult lorsqu'ils justement ils parlaient du jeu, sa sortie en 2017 au Japon. C'est que la version 3DS était pas la meilleure, mais en tout cas la plus agréable à jouer parce que la version 2D faisait que les distances étaient plus rapides à parcourir. Enfin, les. Voilà. Et ça sort l'automne et je suis assez chaud pour essayer peut-être enfin de finir Dragon Quest canonique.
Vous rendez compte que c'est le premier jeu qui avait été annoncé sur Enix l'époque.
Oui. Enix.
Je me souvenais plus de ça, tu vois.
Oui, c'est une des. Quand ils ont annoncé le jeu, ils ont dit alors ce sera 3DS, PS4 et la prochaine console de Nintendo.
Ok, non mais je me souvenais plus, donc c'est cool.
Ce qui est d'ailleurs assez rare pour un Dragon Quest, parce que généralement ils attendent que les consoles soient bien en place pour annoncer la sortie d'un épisode canonique dessus, et là ils l'ont fait même avant que la console sorte.
Voilà, ensuite on a la partie rien à branler avec Disney Tsum Tsum Festival, Starling Battle for Atlas, qui
me hype. Putain, c'est vrai, il y avait ça.
Ah non mais le jeu me déhype en fait, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire que Popol il va finir par rentrer tellement il n'en a rien à foutre. C'est un truc de malade. Rune Factory 4 et 5 dont on n'en a rien à foutre.
Alors le 4 étant un portage, le 5 un nouvel épisode.
Mais pour enchaîner sur Oninaki. Ouais. Dont on n'a rien à foutre non plus. Voilà, c'est parfait.
Ouais, c'est des petits RPG sympas.
Alors, pour le coup, Oninaki, c'est peut-être le premier jeu de. La boîte, c'est Tokyo RPG Factory. Donc, ils ont fait I Am Setsuna, ou I Am Setsuna, c'est pour les intimes. Et je sais plus comment s'appelle l'autre jeu, mais Lost ça avait l'air chiant.
Lost Sphere, oui.
Et pour le coup, c'est celui qui a l'air d'être à peu près le plus intéressant. Déjà parce que ça ressemble pas trop à un jeu mobile comme les deux précédents. Après, à voir ce que ça donne. Hein, parce que l'autre fois, j'avais essayé la démo pour lui donner sa chance et je me suis fait chier au bout de 5 minutes. Mm. Le score.
Pff, c'est un RPG, quoi.
Oui, mais il y a les bons RPG et les mauvais RPG.
Non,
t'as les bons RPG, c'est... tu te bats dans un couloir, il y a un combat aléatoire, mais c'est un bon RPG. Je vais arrêter là tout de suite.
T'es un gros bâtard. Mais c'est un peu vrai. Bon, Yoshi Crafted World, donc on avait déjà vu de nombreuses reprises. Il sort dans un mois maintenant. On a pu avoir la démo. Ça marche plutôt bien. C'est plutôt très sympathique. C'est hyper mignon comme d'habitude.
Ça a l'air un peu chiant.
C'est un jeu Yoshi, je pense que c'est comme les jeux Kirby en fait, c'est des jeux qui s'apprécient à petite dose entre deux trucs un peu hardcore.
À petit âge aussi peut-être.
Oui, et c'est ce que j'aurais dit aussi. Si je voulais être méchant.
Alors ma fille adore hein, Yoshi, c'est son grand truc.
Mais je pense que c'est un jeu qui marche très bien pour les enfants. Hein.
Mais ça marche très bien pour les adultes aussi. Hein. Le seul vrai problème des jeux récents Yoshi, je pense à Yoshi's New Island ou des trucs comme ça, c'est que je trouve que les jeux manquent un peu de... Manque un peu de peps en fait. Je dirais pas qu'ils sont chiants, mais je dirais qu'ils sont vite répétitifs par rapport à Yoshi's Island sur Super NES qui se renouvelle vraiment énormément. Je trouve que Yoshi's New Island par exemple est quand même un peu. Enfin, sur la fin, tu commences quand même à en avoir un peu marre quoi.
Bah, là sur la démo, honnêtement, à la fin du premier niveau, j'étais bon, c'est super joli, ça a l'air assez malin. Et moi, c'est vrai que je trouve ça un peu lent et je m'ennuie un peu quoi. Et je sais pas. Sur combien de niveaux ils vont tenir le concept, ça se trouve ils vont être très bons et réussir à faire tenir le concept sur tout le jeu.
Bah, Yoshi, c'est tout le mal que je leur souhaite. Hein. C'était quoi, c'était Yoshi's Woolly World, le concept tenait super bien. Hein.
Je l'ai pas fait parce que je t'avoue que j'étais assez rapidement calmé par ce que j'ai vu, mais alors, en tout cas moi la démo a l'air plutôt sympa, mais c'est vrai que j'irais pas mettre 50 balles dedans, tu vois, actuellement.
Bah moi je l'ai préco.
Okay.
Parce que j'aime vraiment beaucoup Yoshi de manière générale, ça fait partie. Mais c'est comme Kirby, si eux, c'est des licences, des petits jeux tout cons qui, effectivement, entre deux parties de Fury, tu peux te faire un petit Yoshi, ça passe quoi.
Ouais, non, et puis je pense qu'avec toi, avec tes enfants, ça va être assez fun à jouer, tu vois.
Ouais, surtout s'il y a un mode coop, je sais pas si c'est le cas.
Oui, il y en a un.
Il me semble que c'était le cas parce qu'il y avait Pucci. Donc, ça, c'est le genre de truc que je vais pouvoir jouer avec ma fille quand elle galère un peu. Et, alors, ma fille galère pas tant que ça. Hein. Ma fille est une grosse brute. Mais.
Une gameuse.
Mario Kart en 150cc, ça y est, hein, elle est partie. Hein.
C'est beau.
Donc. Putain, 6 ans.
C'est beau, c'est beau.
Quelle belle éducation parentale.
Ben, écoute, elle a fini Mario Odyssey toute seule.
Ah bah.
Alors, certes, en mode assisté.
Il faut bien finir le jeu déjà. Hein.
Bah, mais elle a fini le jeu toute seule, sans mon aide, sans rien. Elle a battu Bowser et tout ça, elle s'est démerdée toute seule. Et ça l'a bien fait. C'est-à-dire, le... J'aurais dû filmer son rire quand Peach s'est cassée en laissant les deux connards sur le truc. Je te garantis qu'elle était mais pétée de rire d'une force.
Ah, c'était à mourir de rire cette scène. Hein.
Ah, même en tant qu'adulte, moi ça m'a fait marrer, mais elle c'était vraiment genre. Et elle était pétée de rire. Quoi. C'était vraiment genre. Ça la faisait marrer que finalement le renversement de cliché, je pense qu'elle l'a bien compris malgré son jeune âge. Ensuite, on a eu Fire Emblem. C'est
les trois maisons.
Pas ouais, Fire Emblem, les trois maisons, mais c'était Fire Emblem, Sabrina, apprenti sorcière au lycée.
Alors moi j'avais Fire Emblem et la pierre philosophale. en référence au premier Harry Potter évidemment.
Mais, Fire Emblem mène l'enquête.
Alors ça on sait pas.
Fire Emblem Charmed. Ah c'est vraiment pute.
Ça là elle est méchante.
Ouais mais bon. Donc, l'histoire, c'est qu'il y a trois royaumes sur une île qui se mettent pas sur la gueule, pour changer.
Pas encore.
Pas encore.
Ça va,
et il y a une académie au milieu, dans un temple...
Il y a Denis Brognard qui arrive.
Dans un monastère.
Dans un monastère.
C'est dirigé par la religion locale qui a l'air d'être toute puissante. C'est les méchants. Enfin... Vous l'avez entendu sur le premier. Hein.
Non mais c'est, voilà, il y a une religion qui a l'air d'être effectivement... Enfin, en tout cas respectée dans toute cette île. Et qui va former en fait l'élite des différentes nations. Donc, alors j'ai bien aimé les traductions françaises des maisons. En fait, c'est un peu Harry Potter, mais c'était au lieu d'avoir Pouf Souffle, les Secpa, les Terminales, machin. Donc les mecs étaient vraiment genre c'était les Lions d'Or, le machin. Mais c'est plutôt les. C'était quoi ? Non, mais il y avait
les jaunes, les rouges et les bleus.
Non, il y a les jaunes. Non, il y en a un, c'est les machins de jet. C'était c'est quand même, les traductions sont déjà assez, pètent déjà bien la classe. Et apparemment, donc, l'idée, c'est, t'as trois personnages principaux, un qui est issu de chaque royaume, et qui va donc s'entraîner là-dedans pour commencer, évoluer, je suppose recruter des personnages secondaires et tout ça, ça me paraît assez évident. Partir en... Alors, c'est pas des campagnes, mais du coup, c'est des espèces de missions.
Bah, pour l'instant,
ce qu'on nous a montré.
Ce qu'il disait, c'est qu'en gros, pour l'entraînement, on allait envoyer les élèves s'occuper des rebelles et des bandits.
Voilà, grand classique.
ça me fait bien rire.
Ensuite, ils s'occuperont des zombies et des monstres.
Très probable.
Et à la fin, il y aura forcément une conspiration qui fait qu'ils seront obligés de tous s'unir pour pouvoir sauver le monde.
Normalement, à la fin, ils vont tuer le dieu dont on nous parle depuis le début. Ça reste un RPG japonais. Il y a pas mal de petits trucs que je trouvais intéressants. Bon, déjà, il y a une partie gestion des élèves qui, à mon avis, sera assez poussée. Notamment tout ce qui est personnalisation, customisation, optimisation des compétences. Ce qui a l'air plutôt cool. Surtout qu'en plus, on joue le prof en fait, de l'histoire. On va être un peu
le sensei.
Le Severus Rogue en fait, de cette histoire. Et j'espère qu'on pourra se comporter comme un connard. J'attends de voir s'il pourrait y avoir des relations entre le prof et les élèves.
Non, excusez-moi, stop. C'est tabou.
Je pense que Bowser a décidé que ce ne serait pas le cas pour les États-Unis. Enfin...
Voilà, j'étais bien saucé. Je suis toujours un peu saucé. Mais un poil moins, dans le sens où... Enfin, ce qui marche bien dans Fire Emblem, c'est ce mélange jeu de stratégie un peu hardcore et visual novel très très à la con, en fait. Parce que malgré tout, ça reste un visual novel très très à la con. Là, j'ai peur que le côté visual novel soit peut-être un poil trop poussé, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effectivement d'interactions avec des personnages, tout ça, ça a l'air d'être vraiment bien poussé. J'aimerais bien que ça n'éclipse pas trop le côté stratégie. Je trouvais déjà que le château dans Fire Emblem
Fates
était déjà un peu relou à gérer dans certains cas. Alors c'est rigolo parce qu'en fait tu peux quand même arriver à faire monter des trucs et tout ça, et donc t'as intérêt un peu à le faire. Mais je trouve que ça bouffait quand même beaucoup de temps pour pas grand chose des fois.
Bah moi il y a un truc que j'ai remarqué sur ce direct, c'est quand même beaucoup insister sur cette partie personnalisation, parce que je pense que c'est ça qui va attirer des gens qui sont pas habitués de Fire Emblem. Ils ont absolument pas montré la partie combat, et il y a des choses que...
Ouais, il y a quelques screens, mais t'as pas de mécanique.
Mais t'as pas de mécanique, et pourquoi...
Ça va être un peu les mêmes que d'habitude.
Bah oui, c'est ça, mais...
Je pense pas qu'ils révolutionnent le truc, oui.
Non, mais ça c'est clair, mais par contre il y a des petites choses qu'on avait vues, genre par exemple les histoires des formations... Du coup, bon, ça n'a pas été remontré, mais du coup, est-ce que ça correspondrait à quelque chose? Ça parlait très rapidement des gambits où on pourrait attaquer à plusieurs en même temps. Il y a pas mal de petits trucs qu'on... Pour les combats, en tout cas, je pense pas que ça va révolutionner grand-chose, mais ça n'a pas été du tout montré. C'est plus cette partie-là que j'attends, parce que c'est forcément la partie où on va passer le plus de temps.
Putain, enfin, j'espère, oui.
Ça reste Fire Emblem. Normalement, c'est là où on devrait passer le plus de temps. J'espère que ce sera toujours le cas. Et que tout ce qui est gestion des... ces connards d'élèves là, avec notre personnage qui a un BAFA, ça se passera bien. Dernier petit truc que j'ai vu, c'est qu'à la toute fin du trailer, on voit le personnage qui a genre une espèce de vision de ce qui va se passer dans le futur, et on a l'impression qu'il remonte dans le temps. Et bon, je pense que ce sera une part dans le scénario, mais j'espère que ce sera aussi le même genre de mécanique que l'horloge de Mila de Echoes, ouais. qui était probablement la meilleure idée qu'ils aient eue dans cet épisode.
C'était cool, ça, ouais.
Parce que en fait, ça permettait de gagner, d'éviter de se retaper des maps quand on faisait des conneries, quoi.
Ça t'annulait quelques coups, en fait, ça revenait en arrière.
Ça permettait quand même, effectivement, de rattraper des conneries.
Et je peux dire que dans le dernier chapitre du jeu, qui se passe intégralement dans un putain de temple, et bah t'étais bien content de pouvoir revenir en arrière quand tu perdais un mec plutôt que de recommencer tout le niveau.
Effectivement.
Il y a un collector.
Ça enchaînait avec.
Et qui n'est plus disponible à la FNAC.
Qui a pas l'air d'être fou.
C'est les collecteurs Nintendo Europe. À chaque fois, je me dis qu'il vaut mieux se prendre le jeu normal.
Ça dépend. Fate, ça valait vraiment le coup de prendre le collector.
Oui, mais c'est parce qu'il y avait les trois jeux.
Pour le troisième jeu.
Parce que pour le prix de deux jeux, t'avais les trois.
Et Fire Emblem Echoes, je confirme, ça, elle est bien la collector. Il y a les pins, il y a les machins, il y a les petits trucs. C'est rigolo, mais ça valait, à mon avis, pas tellement le coup.
Pas son prix, en tout cas.
Voilà.
Il y avait une collector pour Echoes.
Oui, il y avait une collector pour Echoes, moi je l'ai.
Je m'en souviens même plus.
Et en fait, le seul truc rigolo dans la collector d'Echoes, c'est que t'as la jaquette réversible pour le jeu 3DS où t'as la pochette Famicom originale à l'intérieur.
Ah ouais, bon, pour le coup, je préfère garder les artworks de la version remake. Hein, on veut pas,
oui, bon, mais... voilà. Il y a eu une petite présentation de Dead by Daylight, qui est un jeu multi asymétrique dans lequel il y a un tueur et des victimes.
C'est pas un jeu récent. Hein.
Oui, mais qui a l'air mochissime surtout. C'est-à-dire que le truc, t'as l'impression qu'il tourne en 360p dans le meilleur des cas. On va peut-être pas s'attarder là-dessus. Il y a eu Deltarune chapitre 1 qui en fait est le prochain jeu du mec qui a fait Undertale.
Toby Fox. Alors du coup ça y est, c'est dispo. C'était dispo.
Voilà, c'est gratuit.
Plus tôt que ce que t'es prévu. Le trailer est très drôle.
Alors, ce qu'il faut
avec
savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que Deltarune pour le coup c'est pas vraiment une, enfin c'est pour le coup c'est juste un chapitre d'un jeu qui est en cours de développement et dont ça a à peine commencé en fait.
Tout à fait. Tout à fait, mais du coup, ben, si vous avez bien aimé Undertale, jetez un petit coup d'œil à ça, quoi, tout bêtement.
Oui.
Comme c'est gratuit en plus, il faut en profiter. Demon Ex Machina a été remontré et la démo est sortie.
Mm-hmm. Allez, vas-y.
Bah, c'est bien Demon Ex Machina. C'est le style graphique marche super bien, la bande sonore est cool, ça se manie très bien. Le seul truc que j'ai reproché pour l'instant à la partie gameplay, c'est que c'est dommage qu'il t'ait pas fourni tout de suite un mecha avec des jambes un petit peu plus puissantes ou je sais pas quoi. Mais en fait, ton mecha, t'as l'impression qu'il se traîne sur les 2-3 premières missions. Et en fait, dès que t'augmentes les jambes, putain, là, ça y est, le truc, il commence à se remuer un peu le cul et ça devient vachement agréable à jouer. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça dès le départ. C'est un peu dommage parce qu'effectivement, les gibbles et tout ça, j'ai l'impression que la partie custode mecha va être assez, assez poussée.
Yes, et du coup, perso, dans les menus, j'ai encore tendance à m'y paumer un peu.
Pour la partie custom ?
Ouais.
Ouais, c'est un peu bordélique.
J'aurais bien aimé, tu vois, une espèce de...
Bah, de skill tree, en fait, bêtement.
Oui, ça, ou d'une représentation à la Diablo, en fait. Où t'es en un clin d'œil, ouais, tu vois exactement ce qui est équipé.
Parce que c'est vrai que ça aurait été quand même, à mon avis, un poil mieux.
Moi, pour le coup, je suis un peu plus nuancé que toi. J'ai bien kiffé quand même. Mais je trouvais que ça manquait un peu de peps par moment. Enfin, en tout cas, les flingues mitraillettes de base donnent pas trop envie. Et t'as pas l'impression qu'ils sont très puissants. C'est un peu bordélique aussi.
C'est un jeu de méca, donc c'est forcément un peu bordélique. Je trouve qu'on sent plutôt bien l'inertie du méca, ce qui est quand même un truc hyper important dans ce genre de jeu-là.
Par contre, la partie pilotage, j'avais vraiment peur pour tout ce qui était gestion de montée, descente, navigation en 360 degrés. Et ça marche plutôt bien. J'espère qu'il y aura quelques possibilités d'améliorer un peu ça, d'avoir des manœuvres un peu plus chiadées. Pour avoir vraiment l'impression de piloter parce que ça a l'air des mécas assez légers, assez mobiles en fait, et j'espère qu'il y aura moyen d'avoir des trucs assez cool à faire avec ça, parce que quand tu vois les cutscenes des mecs qui font des loopings et compagnie, tu te dis putain, j'aimerais bien faire pareil quand même.
ce truc là ça a l'air vraiment d'être cool, quoi. Tu te retrouves vraiment dans un gros méca relativement petit en fait, et du coup assez maniable, mais où tu sens quand même que tu manipules un truc de plusieurs tonnes. Moi, je trouve que ça marche quand même vachement bien. Le seul petit truc que j'ai reproché, alors Méduse avait dit il n'y a pas de visée au gyroscope et c'est dommage.
Oui, je suis d'accord.
Vu qu'il y a un lock automatique qui est quand même assez violent, moi je trouve que c'est pas hyper gênant. Même si j'aurais bien aimé effectivement avoir des mouvements un tout petit peu plus souples avec un gyroscope, il reste encore un peu de temps pour le faire. Le seul truc que moi je trouve un peu dommage, c'est que le dash est sur le bouton Y, ce qui veut dire que dasher et diriger la caméra en même temps, c'est un peu la galère. Voilà, donc le dash, ce serait peut-être bien de le mettre sur le bouton R ou quelque chose comme ça, parce que ça permettrait quand même de pouvoir dasher en regardant à gauche à droite, ce qui est hyper utile dans ce genre de jeu-là.
Alors, sachant que c'est une démo qui a été suivie d'une petite campagne de recueil
joueurs... Il y a moyen de paramétrer les commandes de mémoire.
Oui, il y a peut-être moyen de paramétrer, mais je pars toujours du principe que les contrôles de base, c'est ce que t'offrent les développeurs, donc c'est comme ça qu'ils pensent que tu vas jouer au jeu. Si t'es de toute façon obligé de les changer pour faire quelque chose de correct, c'est qu'il y a un problème.
Ah, ça, je suis d'accord.
Ça devrait pas, voilà, tu devrais customiser pour améliorer, pas customiser pour réparer. On a de nouveau eu un petit aperçu de Grid Autosports, donc il y a un jeu de caisse. Jusqu'à présent, les jeux de caisse sur Switch, c'est un petit peu le désert. C'est-à-dire qu'on a eu Gear Club Unlimited qui était pas extraordinaire, qui est l'adaptation d'un jeu mobile. Gear Club Unlimited 2 qui s'est bien cassé la gueule, parce qu'effectivement, autant le 1 sorti la même année que la Switch, qui était un portage un peu à l'arrache certes, mais qui était le premier jeu de bagnole du genre, donc il y a eu une espèce de consensus pour dire c'est pas si mal que ça. Le 2, non. C'est tout un tas de gens qui ont dit non, c'est pas possible. C'est à un moment, il faut vraiment améliorer la recette. On était gentils sur le premier, pas tellement sur le deuxième. J'ai un collègue, moi, qui est... Il y a Verali qui est... Enfin... Verali n'est pas mauvais. Mais... Moi, je l'ai essayé parce que j'ai un collègue qui est un grand fan de jeux de bagnole et qui n'a qu'une Switch. Donc, le pauvre, il galère. Verali, en fait, l'ambiance sonore est bien, la physique des véhicules est très bien. Le problème, en fait, c'est que graphiquement, le jeu tient pas vraiment la route. Ce qui serait pas forcément gênant si les mecs avaient pas essayé absolument de mettre bien des vu, effets ouais. à la con dedans. Tiens, là, typiquement, tu vois l'ombre se dessiner à 5 mètres devant toi. C'est tellement distrayant que moi, j'arrivais plus à faire autre chose. J'aurais préféré, à la limite, que les mecs suppriment les ombres complètement. Ça aurait été moins emmerdant. La grille d'autosport, il faut voir que c'est l'adaptation d'un jeu mobile à la base, mais plutôt assez poussé, et en termes de physique, et en termes de course, et en termes de véhicules disponibles, et ainsi de suite. Donc le truc a quand même l'air d'être plutôt bien foutu. Et tu peux customiser les commandes comme tu veux, c'est-à-dire avoir notamment pouvoir pallier à l'absence de gâchette analogique avec, en utilisant le stick droit pour accélérer et freiner, par exemple. Ce qui est une option qui est quand même viable. Voilà, donc ça a pas l'air d'être inintéressant, Grid Autosport. Je pense que c'est un truc à surveiller. Surtout qu'un petit jeu de bagnole un petit peu orienté arcade une fois de temps en temps, ça fait quand même pas de mal.
Et il y a un mode Destruction Derby, ça oui, me parle.
Et ça c'est cool. Alors la petite surprise, on a un peu pris le what, qu'est-ce qui se passe.
Ça pose des questions, oui.
Hellblade, Senua's Sacrifice, qui était, de ce que j'ai compris, une exclusivité Xbox One.
Non.
Ah non, pardon.
En fait, PS4, Xbox et par Ninja
Theory, qui ont été rachetés par Microsoft.
Et oui, mais en fait, le truc était peut-être déjà dans les cartons avant qu'il soit racheté par Microsoft.
Je crois que ça avait été annoncé avant qu'il le sortisse sur Switch. Ouais, non, je confonds avec Firewatch, c'est pour moi.
Bref, c'est plutôt de l'expérience narrative, si je me souviens bien.
Ouais, c'est surtout un jeu qui parle de...
De folie mentale.
De folie et de dépression, non mm.
C'est... Voilà, je sais à peu près ce que je me souviens.
En tout cas, c'est un jeu qui a été retenu pour...
Céleste en 3D.
Peut-être pas jusque-là, mais... c'est un jeu qui a été retenu, en tout cas, pour toute la partie, justement, psychologique. Et ce qu'il racontait, plutôt que pour la partie gameplay.
Et qui était un jeu absolument magnifique. Enfin, je me rappelle que le truc était quand même assez scotchant quand tu vois que c'est la console qui rend ça en temps réel. Alors effectivement, c'est du 30 images par seconde et tout ça. Je me suis demandé, mais putain, les mecs, s'ils arrivent à faire tourner ça sur Switch, c'est quand même hyper balèze, quoi.
Enfin, sûrement réduit, mais après, faut pas oublier que ça reste des environnements cloisonnés, quoi.
Tout à fait, non, mais c'est possible d'arriver à avoir un très beau rendu sur des jeux de ce genre-là, je pense, mais... Enfin, c'était quand même... c'était costaud. Il y a une petite section, oui, rappelez-vous, Mortal Kombat 11, Unravel 2 et Assassin's Creed 3 Remastered.
Le jeu Wii U de ce Nintendo Direct.
Oui.
Ah bah bien vu.
Avec Super Mario Maker 2.
Bah non, c'est une suite.
Ah, c'est un monsieur, un bâtard. Mais voilà, donc Mortal Kombat 11, très 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 bonne nouvelle. Apparemment le jeu tourne très très bien, même sur Switch, donc ça fait hyper plaisir. Unravel 2, j'avais cru comprendre qu'Unravel 1 était pas terrible, donc bah je sais pas.
Ouais, c'est un jeu qui vaut pour sa DA, en fait.
Ouais, c'est peut-être ça, mais du coup, c'est pareil, c'est le genre de jeu qui est bien adapté à la Switch, je pense. C'est effectivement des expériences un peu plus courtes, un peu plus ténues, avec des choses un peu originales. Assassin's Creed 3 Remastered, pourquoi pas. C'est vraiment pas le meilleur épisode de la série.
C'est ça, c'est considéré quand même un des plus mauvais, je crois, d'ailleurs. Donc,
Bah, moi, c'est celui que je considère comme étant le plus mauvais de la Wii U. Mais oui, mais Black Flag est vraiment très 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 bon.
Ah bah il y a des pirates.
Bah il y a des pirates et puis surtout le gameplay en bateau il est gigantesque quoi. C'est le problème en fait d'Assassin's Creed 4 c'est qu'il y a encore du gameplay à pied. Je vois pas l'intérêt. Surtout que je te dis, enfin moi je l'avais dit dans la critique que j'avais rédigée sur le dojo, mais toutes les missions d'assassinat je les ai réglées de la même manière. J'ai envoyé une fléchette qui rend fou dans la cible s'est mise à attaquer un garde qui l'a tué. Voilà. Donc en fait, à la fin, je lançais une fléchette qui rend fou sur la cible et je me cassais pour aller faire une autre mission. Quoi. Je savais que de toute façon, elle finirait par être remplie. Donc bon, des défauts comme ça, moi je trouve ça assez rédhibitoire. Ensuite, il y a eu la section Final Fantasy.
Yep.
Donc rien à foutre.
Le 9 est déjà dispo, c'est une adaptation de la version mobile avec des polices moches et des bugs audio.
Ouais, et le bug casse bien les couilles. En fait, c'est les musiques de la world map, pas de la carte globale.
Elle ne s'arrête jamais.
Non, elle repartent à zéro à chaque fin de combat.
Ah putain. Bon, faut espérer qu'ils corrigeront ça. Mais en même temps, moi, Final Fantasy, j'en ai pas grand.
Alors, ils l'ont toujours pas corrigé sur mobile en je sais plus combien d'années, donc non.
Ouais, donc c'est mort.
Ouais. Mon perso, c'est les 20 balles, ça fait un peu chier, quoi.
Ça reste un bon FF.
Très bon, le 9.
Mais je le dis plutôt en émulateur.
Oui, voilà. Je pense que ça vaut le coup comme ça. Les deux petites surprises pour la fin. Alors, les deux petites surprises. Il y en a une, c'est quand même une grosse surprise.
On commence par laquelle?
Je propose de commencer par Astral Chain, qui est le prochain jeu de Platinum Games. Alors, on sait que Platinum...
Ce prochain jeu, surtout, qui va sortir de Platinum Games.
Parce qu'on sait que Bayonetta 3 est dans les cartons, mais il est toujours pas sorti.
Ils se sont fait virer de Grand Blue Fantasy, je sais plus trop comment, ça s'appelle Rolling, je crois. Donc, en gros, bah, là, c'est leur prochaine sortie.
Et donc, on incarne des espèces de flics du futur.
Exactement.
Dans une ville futuriste qui ressemble beaucoup à, quelque chose comme Blade Runner. Oui, c'est le turfu, quoi.
Globalement, j'avais l'impression que les mecs, c'était un peu des équivalents de Blade Runner. Ils chassaient genre des mutants.
Des monstres ou des mutants, quelque chose comme ça. Ouais,
c'était pas des androïdes, quoi.
Non, c'était pas des androïdes. Et en fait, le truc, c'est que le système de combat a l'air d'être sympathique. Et il y a cette espèce de chaîne astrale, d'où le nom du jeu. C'est-à-dire que les deux flics, en fait, mettent une espèce de bouclier. Alors, dans une chorégraphie que je qualifierais de Power Rangeresque.
Ah bah, c'est clairement l'inspiration. En plus, le gars qui fait le character design est connu notamment pour avoir fait des séries. Alors, genre, je sais pas si vous ça, les plus vieux se souviendront peut-être de Wingman.
Oui,
ouais. Bah c'est... voilà, c'est le mangaka à l'origine de ça.
Z-Man plus récemment.
Voilà, ils Z-Man ont des coupes aussi. De cheveux improbables, comme dans tout bon jeu japonais.
Voilà.
Et c'est quand même, ça a l'air d'être marrant parce que les deux personnages ont l'air d'être liés par cette espèce de chaîne astrale et c'est avec ça qu'ils font des combos.
Et non pas une chaîne nébulaire, contrairement à un autre manga.
Tral bâtard, chaîne astrale avec Emmanuel.
Avec Chou. Des mecs qui prennent des poses Power Rangeresque.
Voilà, bon, en tout cas, ça a l'air cool. On en a malheureusement pas vu grand chose en termes de gameplay. On a vu quelques combats, mais ça a l'air d'être. Enfin, je sais pas si c'est du pré-rendu ou si c'est effectivement du vrai combat et on sait pas vraiment comment ça se joue.
Alors, on a surtout vu qui s'occupait de quoi, donc on a parlé de Katsura à la.
Au Kara Design.
Au Kara Design, donc mangaka de renom dans les années 90. Bon, je crois que le producteur, c'est notre ami.
C'est Camilla.
C'est Camilla. Et en fait,
c'est Hideki.
C'est Hideki. Surtout, ce qui est plus intéressant, c'est le nom du réalisateur.
Le réal.
Donc, j'ai oublié son nom, évidemment, parce que j'ai aucune mémoire des noms. Mais c'est le designer, pardon, de Nier Automata.
Yeah.
Et là, c'est pas Taro Yoko, c'est l'autre. Tout dur, hein.
Oui, non, mais pour le coup, c'est le designer, pas le réalisateur.
Oui.
C'est ça. Donc, c'est pas Taro Yoko, mais c'est un
c'est
gars
l'autre. Chez... putain.
Et si comment... on l'appelait Code Lyoko.
Code Lyoko.
On est bien.
Quel bâtard. Bon, voilà. Donc, c'est un gars qui monte chez Platinum. Il y a des.
Tora.
Il y a de fortes chances que, du coup, il nous fasse un bon jeu.
Non, Tora, c'est le mec dans Kingdom Hearts.
T'es con.
Lequel?
Je sais pas.
Est-ce que c'est le nobody ou le sang... Enfin bref.
Attends, j'ai écouté ce matin, en pliant la lessive, un mec qui, en une heure, essayait de résumer le scénario de Kingdom Hearts.
Oui, moi aussi, j'ai écouté ça il y a pas longtemps et putain, j'ai toujours pas compris.
En fait, j'ai décroché au bout d'un quart d'heure. Non, mais vraiment, voilà. J'ai décroché, quoi. J'y arrivais plus.
Avec les somebody, les nobody...
Non, les sans cœur, les mecs, en fait, c'est les mêmes, mais ils ont pas la même apparence. Et Anselme, qu'on comprend pas qui c'est.
En fait, c'est Xehanort, et puis Xehanort, en fait, il y a Xehanort du passé, Xehanort... Bref.
Et puis apparemment, le temps, l'histoire, la mémoire, le machin, tout ça, ça se mélange. C'est le bordel.
Et de toute façon, il y a Dingo et Donald qui accompagnent le héros, et Mickey est super badass.
Yeah.
Voilà. Rien que ça, ça me fait... Voilà. Bref, nous ne sommes pas là pour tirer à boulet rouge sur Kingdom Hearts. Et donc, la petite surprise du « Wait, there's more ».
Ouais, grave.
Attention... Kiki tout dur, et là Kiki tout dur genre violent.
Ah c'était Koizumi, pas Kiki tout dur. Koizumi, tu lui comprends.
Code Lyoko et Kiki tout dur. Oui, c'est The Legend of Zelda Link's Awakening. Je me permets de citer Zergy qui nous a écrit gentiment puisqu'il ne pouvait pas être là ce soir. Mais prends mon argent, maintenant quoi. Et donc apparemment Zergy a lancé des billets sur son écran et ça n'a rien fait.
La tristesse.
C'est la tristesse, mais alors Link's Awakening, un remake, donc full 3D de Link's Awakening sur Switch, qui a l'air hyper mignon, enfin qui a l'air d'être juste totalement mimi tout plein. Personne s'y attendait, je pense.
Il y avait des rumeurs de Link's Awakening sur 3DS. On se demande si c'est pas celui-là qui a été porté sur Switch.
Alors c'est pas impossible.
Pas impossible. Et il y a de fortes chances que ce soit par l'équipe de Link Between Worlds.
Ouais.
Notamment, c'est quasi. Enfin, ça pas, les noms n'ont pas été donnés, mais au vu de la musique, je pense que c'est Ryo Nagamatsu qui a fait les reprises de. Les musiques de Between Worlds qui s'occupe de des musiques de ce remake, parce que, bon, clairement, l'espèce de flûte de pan ou flûte traversière dans le trailer, ça ressemblait beaucoup à ce qu'il avait fait dans Between Worlds, en fait.
Oui, voilà, puis en plus, c'est, je sais pas, c'est cool, on n'a pas vu grand chose, mais.
Oh, j'ai déjà fait le jeu plein de fois.
Bah voilà.
Voyou.
Voyou. The Legend of Voyou.
Mais je sais pas comment ils vont. Alors je sais pas s'il y a des choses qui vont être conservées ou pas. Il y a l'air. On a retrouvé des décors et des personnages. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement tout un tas de choses qu'on connaissait déjà, qui étaient familières. Mais bah, with a twist, de temps en temps, on a vu d'autres choses qui étaient pas tout à fait comme c'était à l'époque, quoi.
Déjà tout ce qui était hommage à aux autres franchises Nintendo, notamment tous les hommages à Mario qu'il y a dans Link's Awakening, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, a priori ont été conservés, en tout cas pour tout ce qui était la présence du Chomp ou des Goombas dans les phases en vue de horizontale, en vue de profil.
Qui ont été conservés aussi.
Et heureusement, parce que ça faisait partie des charmes de ce petit jeu. Donc je pense qu'on va avoir un remake plutôt fidèle. J'espère quand même qu'ils vont améliorer un ou deux trucs. Notamment la gestion de l'inventaire et
les changements d'objets, ouais.
Ouais, et le fait que par exemple quand tu t'approchais d'une pierre que tu ne pouvais pas soulever parce que t'avais pas le bracelet de force, t'avais un message à chaque fois, c'était dur. Et j'avoue que quand je l'ai refait, je me souvenais plus de ça, ça m'a beaucoup fait chier. Donc j'espère qu'ils vont un peu fluidifier tout ça et que ce sera un peu moins flemmard qu'un autre remake de jeu Game Boy sorti en 2018.
C'était un petit peu dur avec Samus Returns.
Ah non!
Et il était pas sorti en 2018, lui.
Ah merde, je pensais que c'était ça.
Bien essayé.
Mais attends, c'était lequel?
Il y a un nouveau remake fin 2019. Là,
c'est Pokémon. Avec
Pikachu et Oli. Excusez-moi, Pokémon. Non, mais parce que Samus Returns. Enfin, honnêtement, je me suis plus amusé sur Samus Returns que sur Axiom Verge.
Bah, Samus Returns, moi j'ai pas fait la version Game Boy, donc je peux pas dire si c'est flemmard ou non, tu vois.
Putain, la version Game Boy c'était hardcore. Hein.
Déjà que
la version NES c'est quand même très 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 raide je dirais après 2000 c'était déjà très 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 raide la version NES. La version Game Boy tu souffres un peu, hein. C'est pas évident, et du coup le remake a fait du bien, mais bref, ça a l'air d'être, enfin je sais pas, moi Link's Awakening c'est pas mes épisodes préférés de la série, parce que c'est vrai que j'y ai pas joué sur Game Boy à l'époque, j'y ai vraiment joué beaucoup plus tard.
Ah, c'est vraiment le jeu de la nostalgie, ouais, pour le coup.
Et du coup j'ai pas trouvé ça fou, parce qu'effectivement j'avais fait Ocarina of Time avant, j'avais fait plein d'autres trucs avant, et j'avais fait les épisodes Super NES avant et tout ça, donc c'est vrai que ça m'a pas autant marqué que les gens qui l'ont fait vraiment à l'époque de sa sortie.
Moi, c'est mon premier Zelda, donc il y a une nostalgie assez forte avec ce jeu.
Oui, voilà. Mais, enfin bon, je j'ai pas cet aspect nostalgique, mais moi, rien que de voir ces images, avec ce Link trop mignon, avec qui a pas d'œil, il y a juste deux petits points, cette espèce d'effet field of view, ce flou, tu sais, le flou devant et derrière, ce qui fait que t'as vraiment l'impression de regarder un diorama animé, quoi. En plus, j'ai l'impression que les animations sont un petit peu saccadées exprès pour te donner cette impression de stop motion, pratiquement.
C'est juste que le jeu est encore en cours de développement.
C'est possible aussi, hein. Mais voilà, ça a l'air d'être quand même vachement sympa. C'est prévu d'ici la fin de l'année, et je pense que ça va quand même plutôt bien se passer.
Bah, moi, franchement, c'est un des jeux que j'ai le plus fait dans ma vie, en fait, tout simplement. Je pense à tout 8 fois. Et donc c'est un certain plaisir que je suis content de le voir. C'est pas non plus une énorme attente, parce que ça reste un remake et que je préfère quand même avoir des jeux que j'ai jamais fait. Mais c'est un de mes Zelda préférés, et je pense que je le rachèterai les yeux fermés comme un gros pigeon, bien entendu.
Voilà, et ben c'est parfait. C'est absolument parfait. Bref, on va se quitter là pour cette semaine. On va se retrouver dans 2 semaines. On va vous faire à tous de très gros bisous. Désolé, l'émission était un petit peu longue, mais on avait un Nintendo Direct plus pas mal d'événements à couvrir.
Franchement, vu tout ce qu'on avait à couvrir, je trouve qu'on a été rapide.
Je trouve qu'on s'est plutôt bien démerdé. Tout ce dont on vous a parlé dans ce Nintendo Direct, à très peu de choses près, ça sort cette année. J'ai plus l'ordre exact, mais on est... Voilà, le Astral Chain, ça doit être un des derniers où on a la date officielle, c'est le mois d'août.
Astral Chain, c'est le 30 août. Globalement, tout ce qui n'a pas eu de date précise, à mon avis,
c'est reporté après le 30 août, a priori.
Ce sera pour la fin de l'année avec Animal Crossing et Pokémon.
Parce que voilà, Fire Emblem, c'est au mois de juillet.
27
Mortal
juillet.
Mortal Kombat 11, c'est au mois d'avril. Avril. Assassin's Creed Remastered, c'est au mois de mai. Grid Autosport, je crois que c'était aux environs du mois de mai ou juin. Demon X Machina, c'est août aussi.
Été, ouais.
Yoshi's Crafty World, c'est le mois prochain. Après, les trucs un tout petit peu importants, je crois qu'on a pas tout fait. Box Boy, Box Girl, je crois que c'est au mois d'avril ou quelque chose comme ça, donc c'est pareil, c'est bon, vraiment pas longtemps.
Avril, yep.
Y a que Marvel Ultimate Alliance où j'ai pas la date. Non, j'ai pas la date, donc je suis pas sûr. Animal Crossing, c'est jamais, Nazlurf.
Animal Crossing, on a toujours pas eu de date.
On a pas de date, on a rien. Donc on peut pas dire. Bref, donc tout ça va sortir dans le courant de l'année, en tout cas c'était assez chargé, Nintendo a vraiment posé ses couilles et son catalogue, et voilà, et donc bah nous, on va vous retrouver dans 2 semaines pour poser nos couilles peut-être, le catalogue probablement beaucoup moins, je ne sais pas de quoi on va parler, ça dépendra de ce que l'actualité aura à nous offrir, mais voilà, on vous fait des gros bisous, pour les gens qui nous écoutent sur Twitch, ou sur nintendojo.fr/dojobar en direct, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter en podcast. Pour les gens qui nous écoutent en podcast, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct, donc nintendojo.fr/dojobar, ou sur twitch.tv/nintendojo.fr si vous voulez profiter du chat pendant ce temps-là. Voilà. Gros bisous tout le monde, à dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Ta gueule est Metis 99.
Oui.
GG.